Eh bien, bonjour. Nous sommes heureux de recevoir pour cette intervention sur le niveau de la vente et le prêt du livre numérique. Je crois que le public est essentiellement bibliothécaire, à peu près. Je vais vous présenter les intervenants rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. On va commencer par eux. Elisa Boulard, qui travaille pour la société immatériel.fr. Dont la société a offert une offre envers les bibliothèques il y a peu. Elle nous en fera une présentation plus mieux que moi, sûrement. Lionel, vous n'entendez pas?
Ah, je vais donc m'ajouter dans le micro.
D'accord. ça marche mieux?
D'accord.
Donc Lionel Bujol, responsable de la médiation numérique de Romans sur Isère, qui est moi j'ai rencontré en tant que veilleur de l'actualité en bibliothèque à tous les niveaux. On trouve sa trace facilement. Ludovic Bernot, qui représente à différents niveaux, Locomodo, éditeur, diffuseur, diffuseur numérique. Voilà. Il y a de nombreuses maisons d'édition qui sont présentes. Et Stéphane Marsan, qui représente Bragelonne, qui a aussi une très grosse offre numérique, de plus en plus. Et cette journée, on va la présenter sous la problématique des... comment est-ce qu'on va pouvoir vous acheter vos livres, d'une, et comment va-t-on faire pour les prêter, de deux. Et je crois que c'est déjà un bon sujet à faire en une heure. Si quelqu'un... Si tu veux présenter une matérielle, puisque il y a une offre justement qui répond à une partie de la question.
Merci. Bonjour à tous. Moi je suis Elisa Boulard et je vais vous parler, pour commencer, je vais vous présenter immatériel.fr, notre société, notre rôle un petit peu dans ce circuit du livre. Donc nous, notre travail de distributeur, c'est de faire en sorte que les livres ou les contenus numériques, je dirais, d'un éditeur se trouvent sous les yeux du plus d'usagers et de clients possible. C'est-à-dire que on stocke chez nous fichiers, métadonnées de l'éditeur, et on travaille avec les libraires et les vendeurs au bout de la chaîne, donc aussi bien avec des libraires traditionnels, je dirais, comme Dialogue, Ombre Blanche, ce genre d'interlocuteurs, qu'avec des firmes internationales, je dirais, comme Apple, Amazon, Kobo. On travaille aussi avec la Fnac. Donc voilà, notre but à nous en tant que distributeur, c'est que les livres soient visibles dans le maximum d'endroits, et aussi en bibliothèque, parce que l'éditeur nous offre, met à notre disposition des contenus, et peu importe, je dirais, la forme qu'ils prennent, le principal c'est qu'ils soient au maximum d'endroits. Et donc nous, immatériel.fr, on a commencé à travailler sur une offre aux collectivités avec l'éditeur public.net, que vous connaissez peut-être, donc les auditions de François Bon. Et François Bon a un catalogue de littérature contemporaine d'à peu près 500 titres qu'il a voulu mettre à disposition des bibliothécaires sous la forme d'un abonnement avec une lecture en ligne. En ligne uniquement, c'est-à-dire sans téléchargement, pour une raison très simple, c'est que les contenus de PubliNet et de beaucoup de nos éditeurs sont sans DRM, et autant les contenus sans DRM ont un sens complet pour les particuliers, autant quand il s'agit de collectivités, c'est un petit peu plus touchy. Je termine. Notre offre, donc on a commencé avec public.net et on a ensuite créé une offre numérique où le principe est que la bibliothèque, donc elle-même par l'intermédiaire de son libraire, compose sa collection de livres numériques et en offre un accès illimité à ses usagers sur place ou à distance, donc à partir du catalogue qu'on a aujourd'hui qui fait à peu près 5000 titres. Voilà. Pardon, c'était long.
Je vais te poser une question parce que tout le monde, enfin je pense que le terme de DRM parle à certains, mais pas encore à tout le monde. Je veux qu'on l'explique une bonne fois pour toutes parce que ça va peut-être revenir assez fréquemment.
Oui. Pour expliquer concrètement ce que c'est qu'un DRM. Donc aujourd'hui, le DRM, donc, c'est quelque chose qui est appliqué sur les contenus numériques, voilà, sur le livre aussi bien que voilà, sur les logiciels, sur les jeux vidéo ou sur les fichiers musicaux. Le principe, c'est que c'est un verrou qu'il faut décrypter au moyen d'un compte. Pour le livre numérique, c'est la société Adobe qui gère ça. C'est-à-dire que la personne, quand elle achète, je ne sais pas, par exemple, un livre, bon, je parlais de Dialogue, on va prendre l'exemple de Dialogue. Quoi, non, Dialogue ne vend plus de contenu sans DRM, justement, parce que ça lui posait trop de problèmes. Donc, parlons de n'importe quel autre libraire. Donc, quand on achète un livre chez eux, on reçoit un fichier un petit peu bizarre, on ne sait pas trop. Ça correspond, c'est quelque chose qui s'appelle urllink.acsm. Je vous dis tout de suite là, tout de suite, le client qui achète, il ne sait pas ce qu'il a acheté. Donc, il faut que la personne se crée un compte Adobe pour qu'elle décrypte ce fichier et qu'elle puisse lire son livre, pas sur plus de 6 appareils différents. Et elle ne peut pas le prêter puisque le livre est lié à son compte. Et elle ne peut pas le lire sur tous les appareils existants. Enfin, elle peut, mais si elle s'y connaît un petit peu, si elle a envie de passer du temps dessus. Voilà.
Merci. Je peux prendre la suite.
Bonjour. Moi, je joue un peu le rôle de l'épicier à cette table, puisque je suis un éditeur, donc un vendeur de livres. Mais plus précisément, je suis un vendeur de lecture. Et je pense que c'est là déjà l'un des points majeurs de ce qui est en train de nous arriver, c'est que nous sommes en train d'apprendre tous à faire l'expérience de la lecture sur autre chose que du livre. Moi, je voudrais commencer finalement par quelques généralités, mais qu'il est parfois bon, enfin il me semble, il est bon de rappeler, je vais essayer d'être court, parce que comme on se le disait juste avant le début de cette intervention, finalement, quand on rencontre tout le monde, hein, libraires, tous les secteurs, mais en particulier les bibliothécaires, on se rend compte qu'il y a avant tout un souci et un devoir d'information et de partage d'informations avant même qu'il y ait du débat et qu'on puisse se demander ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Bon. Donc je pense que la première chose que je voudrais dire, c'est que, ça a l'air bête, mais que le livre numérique est une réalité. Et si je le dis, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de réticences inconscientes ou conscientes, involontaires ou involontaires, à ce constat-là. Donc le problème n'est plus de se demander ce que ça va devenir, n'est plus de se demander si ça va être possible, etc., etc. C'est de se demander ce qu'on va faire avec et ce qu'on est déjà en train de faire avec. C'est pour ça que je trouve que cette conférence est extrêmement utile et importante, parce que vous avez les mains dans le cambouis, vous êtes sur le terrain de la lecture et du partage de la lecture et du savoir. Et donc l'une des questions principales, c'est de savoir comment est-ce que ce que représente d'un point de vue pratique et d'un point de vue d'une certaine façon idéologique, hein, puisque c'est quand même un changement dans notre civilisation très important, hein, comment est-ce que le livre numérique va vous être utile, quel problème il va vous poser, que peut-être le livre papier ne vous posait pas, et quelles chances, quelles opportunités, quelles facilitations de votre travail le livre numérique va permettre. Moi, je suis éditeur et je pense que j'ai eu un souci quand on a commencé il y a à peu près 2 ans à développer une offre numérique chez Bragelonne, qui, je crois, doit être notre souci à tous. Ce souci, c'est de ne pas laisser passer le train. C'est de monter dedans et, si possible, d'être dans la locomotive. C'est-à-dire que si on attend et voit, si on laisse autorités économiques fondamentales s'emparer du livre numérique sans que l'on puisse vraiment nous se l'approprier et en faire ce que nous pensons devoir en faire, on va laisser passer ce train et on va franchement rater une occasion absolument fondamentale et on va en payer le prix. Quand je dis « on », c'est les éditeurs, les auteurs, les libraires, les bibliothécaires et tous les gens qui, du point de vue juridique, administratif, politique, etc., ont à cœur les questions de la lecture et du savoir et du partage de la connaissance. Donc, c'est le et si je vous le dis comme ça, si je passe un peu de temps à vous lire, c'est que franchement, je crois que c'est extrêmement important, c'est absolument crucial. Et si je crois que c'est crucial, c'est parce que on éprouve encore tout le temps, tous les jours, toutes ces réticences, ces résistances qui sont parfois tout à fait compréhensibles, qui sont tout à fait normales, qui sont naturelles, au développement du livre numérique, à la façon de se l'approprier, et tout un ensemble de peurs et d'angoisses liées à la nouveauté. Et le petit exposé d'Elisa sur le DRM, je trouve, est tout à fait éclairant là-dessus, à quel point ça peut être effroyablement compliqué et dissuasif. Donc il faut absolument s'approprier tout ça, et pour pouvoir se l'approprier, il faut en savoir le plus possible, en tout cas pouvoir en avoir une information minimale et pouvoir la comprendre. Si donc moi, éditeur, je publie du livre numérique, c'est finalement parce que je n'ai pas le choix. Parce que le développement de ce support et de cette forme de lecture aujourd'hui a déjà une présence significative. Elle est évidemment totalement inéluctable, elle va croissante. Et donc il faut absolument être là pour attraper la balle au bon et pour en faire quelque chose. La deuxième chose, c'est évidemment de réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler sur ça ensemble. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, et ça a été notre choix dès le début par exemple, de mettre sur le site Bragelonne, en téléchargement, la possibilité d'acheter des livres numériques. Il s'agit de travailler par exemple avec l'immatériel, il s'agit de travailler avec toutes la forme de vente, Apple, Amazon, Fnac, etc., avec les libraires indépendants qui ont envie de le faire sur le net, les libraires qui veulent le faire dans leur boutique, évidemment les bibliothèques. Donc, c'est mon deuxième point sur lequel je veux insister un peu, enfin que je veux souligner là, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire tous ensemble. Et qu'il faut que nous fassions tous ensemble pour qu'on en profite tous. Et évidemment, ultimement, tout au bout de la chaîne, les lecteurs, l'enseignement, les scolaires, etc., etc. Donc voilà quelques généralités qui me semblent à rappeler ou à souligner. Le dernier aspect, je pense, c'est, alors ça c'est de la tambouille, mais c'est pas tout à fait de la tambouille, mais peut-être qu'on y viendra un peu plus tard, c'est dans les aspects concrets, il y a évidemment l'aspect technique, mais il y a aussi des aspects qui sont évidemment commerciaux. C'est, Elisa et Laurent seront à même de vous donner des pistes là-dessus, c'est-à-dire dans la mise à disposition, quelles sont les conditions financières, quel prix on peut et on doit penser, parce qu'il y a là des enjeux majeurs, baisse de la TVA, etc., etc. Et donc à la fois un aspect technique sur lequel il y a, je ne sais pas exactement par quel moyen, Laurent pourra sûrement le dire, mais comment est-ce que l'information peut être diffusée le mieux possible dans le domaine de la bibliothèque pour savoir exactement qu'est-ce que c'est, comment ça marche, mais concrètement, c'est dans les mains, c'est sur un écran, ça se donne, comment ça se partage, et ensuite, quelles sont les pistes, ça je pense que Elisa pourra nous le dire, finalement les offres commerciales, hein, il faut appeler ça... Comme il se doit, de façon à ce que vous puissiez vous approprier toute l'offre que les éditeurs travaillent à développer et à mettre à votre disposition, parce que chacun ses problèmes. Dans le problème du DRM, nous, éditeurs, on a un problème, c'est qu'évidemment, on est pour la suppression du DRM, mais les ayants droit, les auteurs, les agents, les éditeurs étrangers, etc., eux ne sont pas nécessairement d'accord, ou alors payent des avocats très chers pour nous dire qu'ils ne sont pas d'accord, et ça pose tout un ensemble d'autres problèmes.
Je voulais rebondir, donc moi je suis le bibliothécaire de la table, je souscris totalement hein, ce que on vient d'entendre. Trois points rapidement du point de vue des bibliothèques. D'une part, il y a quelque chose qui a été dit qui est très important. On ne parle pas de livre numérique, mais de lecture. C'est extrêmement important d'avoir cette approche-là, notamment avec le numérique, puisque dès qu'on parle de lecture numérique, on parle d'expérience avec la lecture sur un écran. Ça change beaucoup de choses. On va se rendre compte que, du point de vue du bibliothécaire, lorsqu'il va offrir des ressources numériques, quelle expérience l'usager va avoir avec ces ressources numériques? Est-ce que l'expérience de lecture qu'on va lui proposer va-t-elle être satisfaisante pour lui? On va se rendre compte que si on fait des offres avec des DRM, on en a sans beaucoup parlé, on est dans une expérience de lecture qui est catastrophique et qui joue à la fois contre les textes numériques, contre la lecture numérique, qui joue aussi contre nous, bibliothécaires, qui n'avons pas su proposer à nos usagers des ressources dans un confort d'accès difficile. Premier élément. Deuxième élément, du point de vue du bibliothécaire, on a parlé d'information. Nous souffrons, on voit qu'il y a une très grande réticence, notamment les bibliothécaires français, les bibliothèques publiques, en tous les cas en France, s'interrogent beaucoup autour de la lecture numérique. Qu'est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on propose? On voit qu'il y a des offres qui sont faites, on voit que ça ne marche pas très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bibliothèques qui peuvent dire qu'elles ont 25% de leurs usagers qui utilisent des ressources numériques. Mais n'oublions pas que le lecteur numérique, ce n'est pas encore 25% du lectorat en France aussi. Mais néanmoins, il y a une vraie problématique, c'est que le bibliothécaire lui-même n'est pas un lecteur du numérique. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que comment on peut défendre des ressources numériques, une expérience de lecture numérique, si nous-mêmes, professionnels, nous n'avons pas cette expérience de lecture numérique? Et on le voit bien, le décalage, c'est qu'on pense qu'on va proposer un catalogue avec des ouvrages qui vont être téléchargés avec des DRM ou avec du streaming, enfin, peu importe, mais si nous-mêmes, nous n'avons pas expérimenté ces outils-là, comment pouvons-nous accompagner l'usager? Comment, a fortiori, puisqu'il ne s'agit pas de proposer un catalogue de ressources numériques, il faut faire la médiation. Notre travail est bien là. Hein, on est là pour faire, pour défendre aussi des textes et une littérature numérique. Donc, si nous-mêmes n'avons pas cette expérience-là, comment pouvons-nous nous plaindre que, du coup, l'offre ne fonctionne pas? Ça, c'est donc un deuxième élément qui est fondamental. Donc, expérience usagée. Quelle expérience nous proposons de lecture à nos usagers? Je dis bien, ce n'est pas offrir des livres numériques, mais quelle expérience de lecture numérique nous proposons? Et deux, est-ce que nous, bibliothécaires, nous sommes suffisamment impliqués dans ces processus de lecture numérique pour faire des choix et pour faire un accompagnement qui est vraiment en phase avec les usagers? Ça me semble être très important. Et troisième point, j'ai posé une question qui était intéressante, c'était vendre ou prêter. Mais est-ce que aujourd'hui la solution en bibliothèque, c'est du prêt de livres numériques? Ou est-ce qu'on n'est pas encore une fois sur une notion d'accès à une lecture numérique? La différence, elle est où? C'est que lorsque je prête un exemplaire numérique, un livre numérique, et on voit qu'avec les DRM, lorsqu'une personne l'emprunte, personne d'autre peut le prendre derrière. Comment on peut expliquer à un usager qu'on ne peut pas emprunter un livre qui n'existe pas? Vous ne pouvez pas l'emprunter parce qu'il y a quelque chose là. Mais il est où ce livre? Il est numérique. Vous voyez la difficulté d'expliquer cela? Ou est-ce que plutôt on est dans « je vous offre un accès à un bouquet, à un catalogue, comme peut proposer l'immatériel, je suis connecté, j'accède à ce bouquet et je ne pourrai le lire qu'avec un écran qui est connecté. Je ne pourrai pas faire un téléchargement, sauf s'il y a des offres en off, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que même si je ne suis pas connecté, je peux avoir accès au livre. » Mais bon, ça peut être technique. Vous voyez les difficultés pour nous? Nous, bibliothécaires, on fait de l'acquisition, on construit une collection, on fait de l'acquisition d'exemplaires. Mais si on fait de l'exemplaire numérique, on sait pour ça que ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'il y a forcément derrière des DRM et l'expérience usagée n'est pas excellente. Et en même temps, si on est dans le streaming, c'est-à-dire la lecture numérique, on n'a plus d'acquisition, puisque c'est un bouquet. Donc on voit bien que ça nous interpelle, parce que comment on se positionne? Et moi, il me semble que le fondement, c'est quelle expérience de lecture voulons-nous proposer à nos usagers? Il me semble que l'une des questions est ici.
Oui, bah bonjour. Nous, on est devenu diffuseur-distributeur papier et depuis juillet numérique. Alors, moi, je travaille avec le matériel, mais parce qu'ils ne font pas de DRM. Mais par contre, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que les livres sont tatoués. Ça veut dire que quand il y a un achat, les coordonnées de l'acheteur sont tatouées dans le livre. Et c'est beaucoup plus dur de l'enlever qu'un DRM. Mais je travaille également avec Numilog, qui appartient au groupe Hachette, qui eux travaillent par contre avec DRM, et vendent aussi en bibliothèque, parce qu'on en vend aussi beaucoup en bibliothèque. Pour moi, moi je viens de parler de vente, pour moi j'en vends autant en DRM que sans DRM. Donc le problème pour moi n'est pas forcément DRM ou pas DRM, mais plutôt sur un aspect de vente, et de laisser le choix au client de dire voilà, je joue avec DRM parce qu'il y a les protections, et ceux qui vendent sans DRM, on peut les retrouver sur des plateformes en ligne en piratage où il y en a partout, et ça, en ce moment il y en a partout, on en trouve partout. Donc moi j'ai fait le choix en tant que diffuseur-distributeur de signer chez les deux et de laisser le choix au client final de pouvoir lire avec DRM ou sans DRM. Et je travaille également avec la société YouBook qui fait du streaming, donc qui va sortir bientôt là au mois de mi-mars, donc une offre sur Apple, donc une application qu'on peut télécharger et sur un accès payant ou gratuit, lire en streaming des livres. Voilà, sur un abonnement, je crois, de 15 euros. Enfin, voilà. Donc ça permet aussi de donner accès à tout le monde à la lecture. Là-dessus, je suis d'accord. Après, sur le DRM, sans DRM, moi je dis que c'est toujours le client final qui a le choix. S'il veut prendre avec DRM ou sans DRM, c'est lui le problématique. Mais je pense qu'il faut laisser l'ouverture aux gens au lieu de leur dire le DRM c'est pas bien et sans DRM c'est bien. Chacun fait son opinion en achetant. S'il estime qu'il a acheté un livre avec DRM et que ça marche pas, eh ben, il ira acheter sans DRM.
Mais tu voudrais dire que la même offre existe, exactement la même offre
exactement
existe.
Exactement la même offre sur, je vois par exemple, un site
comme Kobos,
qui vend aussi bien avec immatériel que Numilog, les livres, du moins avec nous, qu'on diffuse et qu'on distribue, ont deux racines ISBN différentes pour bien les marquer, une sans DRM et une avec DRM, qui laisse la totalité et en accord avec Numilog et immatériel. Il n'y a aucune des deux qui est spoliée de dire voilà, j'ai choisi elle fait tant. Voilà. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Avec Numilog, donc, moi je vends aussi par rapport aux bibliothèques. Donc les bibliothèques utilisent aussi les DRM. Après, c'est leur choix. Par contre, avec Numilog, on est chez Auchan, on est chez Darty, chez Boulanger, c'est des ventes où personnellement il n'y a pas de livre. Donc les gens ont quand même, quand on va chez Darty, on va juste acheter une télévision ou peu importe. Et les gens ont quand même le réflexe d'aller acheter sur des bornes des livres. Donc on voit que le livre commence à s'ouvrir de plus en plus. Alors j'espère pas qu'un jour il y aura des bornes dans les pharmacies, on ne sait jamais. Mais au moins ça s'ouvre vraiment intéressant. La librairie Doucet au Mans a une borne aussi numérique, par le biais de l'immatériel je crois. Donc c'est vrai que ça s'ouvre et ça laisse au lecteur et au client final de choisir et d'acheter son livre vraiment où il veut et d'avoir un coup de cœur. Voilà, dire là, je suis chez Darty, j'achète ma télé, j'ai mon téléphone ou mon iPad et je peux télécharger un livre ou acheter un livre. Voilà. Ça sert à ça aussi le numérique, d'avoir des livres dans des endroits où peu probable.
Juste pour, je suis entièrement d'accord, enfin ce qui est dit, les logiques, vous êtes une logique commerciale, hein, il n'y a pas de souci. Juste rappeler que les bibliothèques ont une mission de service public, de lecture publique, financée avec de l'argent public. Il ne faut pas l'oublier. Et que de ce fait, on a une mission qui est très claire, c'est d'offrir au plus grand nombre un accès au savoir et à l'information, et notamment avec des ressources numériques. Du moment où on commence à faire des choix de ressources, moi je ne suis pas, si on fait une offre DRM et sans DRM, qu'on laisse le choix, moi je suis assez... Ça me convient. Mais du moment où on est sur des offres où il n'y a plus que du DRM, là, on n'est plus tout à fait en phase avec nos missions. C'est-à-dire que nous, quelqu'un qui arrive et qui ne peut pas lire un DRM et qui paye un abonnement et on lui dit « Vous ne pouvez pas accéder à ces livres numériques » alors qu'il a payé le même abonnement que celui qui est à côté et qui, lui, peut y accéder, il y a quand même un souci en termes de mission du service public à se poser là. Mais si on donne le choix... Pas de souci.
Bien sûr.
Par contre, moi, là, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne vois aucun avantage à avoir du DRM. Je ne vois aucun client qui préférerait du DRM. C'est-à-dire que c'est que de l'emmerdement, ça ne sert à rien. Et l'exposé d'Elisa était tout à fait éclairant. La totalité de la production mondiale en littérature est déjà disponible, illégalement, gratuitement sur le net. Donc l'enjeu n'est pas d'empêcher le piratage, d'accord ? C'est parce que la guerre de Troie a déjà eu lieu. Et donc la question, c'est de savoir quand j'achète un truc, est-ce que je vais m'emmerder avec ou est-ce que je vais pouvoir le lire tranquillement ? Okay ? Donc le DRM, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est que nous avons fait une expérience avec Alexandre Levasseur qui est éditeur digital chez nous, qui s'occupe de toute notre offre numérique, c'est que quand on a développé notre offre numérique et qu'on l'a mise sur le marché, Alexandre a contacté les sites de pirates en disant « Regardez, c'est super, maintenant on a des romans numériques disponibles. » Et la moitié des sites de pirates qu'il a contactés ont enlevé de leur site nos ouvrages qui étaient jusque-là disponibles illégalement en disant bah, « C'est plus la peine de le faire puisque maintenant ils sont disponibles, ils sont de qualité et pour un prix qui fait rire, c'est-à-dire en gros un café crème, hein, 5 euros. » Donc on n'a plus besoin de faire ça illégalement. Bravo Brajlon. Donc la meilleure façon de lutter contre le piratage, c'est d'enlever le DRM. D'accord ?
Troisième point, il est quand même beaucoup plus facile et moralement plus agréable et satisfaisant d'aller sur un site pour acheter des livres numériques que d'aller s'emmerder, encore une fois, aller sur des sites de pirates, désagréables, incompréhensibles, tous en anglais, etc., etc., pour aller chercher un bouquin qui est en général disponible en poche, qui est disponible dans une bibliothèque et de plus en plus disponible en numérique. Donc franchement, là, la question du DRM, c'est une seule chose, c'est la tentative vaine, absurde et inutile de protéger des contenus qui sont déjà disponibles illégalement par, comme je l'ai dit, des avocats qui sont payés, qui font leur travail honnêtement, hein. Qui sont payés par des groupes pour dire non, il faut pas, il faut protéger le copyright et le droit d'auteur. Évidemment, je suis pour protéger le copyright et les droits d'auteur, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Je voudrais rappeler quand même que le mec qui a eu un coup de génie, qui a sûrement une idée qu'il avait sûrement piqué à quelqu'un d'autre, Steve Jobs, quand il a fait iTunes, ça consistait à dire tout ce qui est déjà disponible gratuitement et légalement, moi je vais le vendre. Et je vais le vendre dans de meilleures conditions, et vous serez heureux de le faire. Ça sera un prix très abordable, ce qui est une question fondamentale dans toute cette histoire. C'est-à-dire que, voilà, une chanson à moins d'un dollar ou moins d'un euro, qu'est-ce que c'est, un dollar ou un euro? Et ça a marché superbement bien. Donc la question, c'est pas le DRM. La question, c'est comment est-ce qu'on met à disposition, commercialement ou dans une démarche de service public, de la lecture, de façon à ce que les gens puissent la trouver facilement, la pratiquer facilement, et y trouver les mêmes plaisirs, voire des avantages supplémentaires, par rapport à l'habitude et la distribution du livre qu'on a eu jusqu'à présent. Je fais juste une petite parenthèse, il y a pour moi quelque chose qui me tient vachement à cœur dans les possibilités que donne le numérique, c'est les lectures en gros caractères. La lecture en gros caractères est devenue un enjeu important pour des raisons évidemment sociologiques, démographiques, etc. Ces 10 dernières années, dans les contrats anglo-saxons, il y a toujours les droits de publication en grand format, en poche, en club, en tout ce que vous voulez, et en édition en gros caractères, ce qui est évidemment très difficile à mettre sur le marché commercialement parce qu'il faudrait faire un tirage spécifique. Que le papier, c'est ce qui coûte le plus cher dans le livre, donc évidemment, plus de, des caractères plus gros égale plus de papier, etc., etc. Et évidemment, la lecture numérique est une réponse extraordinaire pour un lectorat âgé qui trouve là un avantage absolument indéniable.
Ou pas âgé, je vous la contredire.
Oui. Le presbytère. Malvoyant, disons.
Vous avez tout à fait raison.
Je voulais ajouter quelque chose. Donc, Lionel, tout à l'heure, tu as parlé d'accès et donc Stéphane a parlé de mise à disposition des contenus aux clients ou aux usagers. Je voulais juste te dire que nous, quand on a commencé à travailler avec, avec Apple, donc quand la plateforme iBookstore est sortie en France il y a un an et demi à peu près, notre meilleure vente pendant plusieurs mois, ça a été Les Fleurs du Mal de Baudelaire, c'est-à-dire le livre qui est typiquement disponible partout gratuitement sur le net. Les gens l'ont acheté sur iBooks tout simplement parce que c'était super pratique et que tout l'environnement Apple, bon je ne veux pas parler d'Apple spécialement, mais c'est juste que c'est l'important, c'est vraiment la facilité d'accès, c'est-à-dire que si d'emblée vous proposez des contenus, vous vendez des contenus qui ne sont pas très clairs ou qui ne sont pas faciles d'accès, les gens vont préférer perdre un petit peu de temps pour aller voir s'ils sont disponibles gratuitement ailleurs ou sous une autre forme ailleurs, plutôt que de perdre du temps à essayer de comprendre voilà, comment ça marche, comment je paye mon truc, comment j'achète, etc. Donc je pense que c'est vraiment cette histoire voilà, d'accès et de mise à disposition, c'est super important parce que nous, notamment en tant que distributeur, on se considère plutôt comme un distributeur d'accès à des contenus numériques, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que si un jour un éditeur nous dit bah voilà, j'ai un dictionnaire sous forme de base de données, j'aimerais vouloir le commercialiser, le vendre en librairie ou le vendre auprès des bibliothèques, et bien nous, pour nous, c'est de l'accès, c'est simplement une URL qu'on va revendre à des, qu'on va revendre à des libraires et qui vont pouvoir mettre à disposition leurs clients. Donc je pense que voilà, juste pour dire que cette histoire d'accès, à mon avis, c'est le point important.
Alors moi, sur le chacun a son opinion pour DRM ou son DRM, hein, c'est comme pour PC ou Apple, chacun aime ce qu'il veut, hein, voilà. Sauf le café Ben, c'est 1,40€, pas 5€, monsieur Marsan.
Pardon,
le café, c'est 1,40€, hein, pas 5€.
Mais d'ailleurs, t'habites pas à Paris, toi.
Je suis désolé, le café on n'a pas les mêmes moyens. Donc voilà quoi. Donc c'est surtout ça quoi. Hein. C'est moi je parle au niveau client au bout. Je vois pas du tout DRM sans DRM. Si on propose deux offres, déjà le client est satisfait. Très peu de personnes offrent deux offres différentes du même livre. Le client en face, il n'est pas dupe. Il sait ce qu'il va prendre. Il connaît, pour la plupart, moins ceux qu'on achète, ce que c'est un DRM et sans DRM. Voilà. C'est vraiment le client final qui choisit et ça permet, ça ne spolie aucune société là-dessus, que ce soit immatériel ou numilogue, parce que c'est aussi la bataille de ces deux sociétés. Enfin, moi, une qui fait avec DRM et une autre sans. Donc voilà.
J'ai demandé à Lisa de préciser ce que c'était que les DRM, à un public qui normalement c'est un petit peu, parce que ce n'est pas connu. Ce n'est pas vrai de dire que les acheteurs qui achètent des bouquins avec DRM, ils lisent DRM. Du moment que ça les embête pas, du moment que ça les gêne pas au niveau de la lecture, c'est pas grave. Mais ils ne savent pas ce que c'est.
Sur Google, s'ils tapent DRM, c'est expliqué sur Wikipédia.
Alors, toujours pareil, les gens ne rechercheront pas. À partir du moment que ça les gêne pas, effectivement.
Non, mais moi, je ne suis pas pour ou contre. Je veux dire, DRM ou sans DRM,
ça les gênera le jour où ils voudront donner leur. Voilà, ça va les gêner le jour où ils vont vouloir faire comme avec un livre et dire « Ah tiens, il était vachement bien ce bouquin-là, je te le mets sur ta liseuse ou je te le mets sur ta table. » Ah, je peux pas. C'est et puis là, ils vont se dire « Ah merde, puis là, ils vont faire une recherche sur DRM et la prochaine fois, ils achèteront 100. »
Voilà, mais après,
parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était.
C'est de laisser l'offre, on va dire, choisir le client final. Quoi.
Mais là, je rejoins
non, ce que tu dis. Après, s'il fait ce qu'il veut, je veux dire, c'est…
Mais quel est l'intérêt des DRM? C'est sûr. Quel est l'intérêt
moi, des DRM? Moi, je vois par rapport moi en tant que diffuseur, j'en vends autant en DRM et sans DRM. Le marché est là. Je veux dire, il y a les chiffres parlent. On en vend autant avec DRM, sans DRM. Le jour où, en passant par immatériel, je vends 8 fois ce que je vends chez Numilogue avec DRM, là, je pourrais dire effectivement, le client préfère sans DRM. Pour l'instant, c'est du 50-50.
Juste pour dire qu'en bibliothèque, hein, quand même, on a quelques retours d'expérience, toutes les bibliothèques qui ont fait des choix de plateforme de prêt de livres numériques avec des DRM, c'est un constat d'échec. À tel point que les grandes bibliothèques aujourd'hui sont en train de revenir en arrière et d'abandonner ces plateformes parce que justement derrière, l'expérience qui est proposée derrière la lecture est tellement contraignante qu'on met beaucoup d'argent public sur ces ressources-là pour très peu utiliser. Ensuite, on vend plus de DRM que sans DRM. Il faut juste voir la quantité. Quelle est l'offre aujourd'hui de livres numériques avec DRM et quelle est l'offre aujourd'hui de livres sans DRM? Et après, on fait un pourcentage. Vous avez sur 10 livres, vous en avez 8 avec DRM et 2 sans DRM. Forcément, il y en a un peu plus avec DRM qui sont vendus.